Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour ce nouveau podcast de Conflit. Notre dernier numéro en kiosque est consacré à l'Italie, puissance méconnue. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revueconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des cours en ligne, des voyages. Le prochain cours portera notamment sur une introduction à la géopolitique du Moyen-Orient, mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen reste l'abonnement afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui au micro de Conflit Joël Dallègre. Joël Dallègre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en géographie, maître de conférences émérite à l'INALCO et spécialiste de l'histoire de la Grèce moderne. On vous doit notamment plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la Grèce et des Balkans. Et vous êtes parmi vos multiples fonctions rédactrice en chef des cahiers balkaniques et conseillère éditoriale aux presses de l'INALCO. Alors, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, « Un siècle de relations gréco-turques », publié chez l'Harmattan, livre d'une actualité, je dois dire, assez brûlante au regard du regain de tension en mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Et pour démarrer ce podcast, il m'a paru intéressant de revenir sur votre travail de défrichage des manuels d'histoire grecque et turque, notamment qui nous permettent de mieux avoir à l'esprit le choc des mémoires, la guerre des mémoires que se livrent deux historiographies concurrentes et comment cette historiographie été revisitée en fonction des événements politiques, en fonction aussi des changements, des alternances de pouvoir en Turquie et en Grèce. Donc je vous écoute à ce sujet, sachant que on a en mémoire côté grec l'incendie de Smyrne de 1922, les chassés croisés forcés de population, les conséquences pour la Turquie du traité de Lausanne de 1923, etc., etc.
Dans les deux pays, les manuels scolaires sont importants, comme partout, mais peut-être encore plus dans la mesure où il n'y a qu'un seul manuel scolaire pour tous les élèves du même niveau, que ce manuel est choisi et rédigé sous les directives plus ou moins fortes, mais quelquefois très fortes, quand c'est la Turquie, de l'État, et qu'en plus, les deux pays privilégient beaucoup, en tout cas jusqu'à, disons, ces 10 dernières années, privilégiaient beaucoup ce qu'on appelle le par cœur. Donc, c'était une vraie Bible que le manuel scolaire. Bon, les manuels scolaires ont pratiquement pas ou très peu connu de changements jusqu'à il y a une dizaine d'années, disons. Ils étaient en fait dans l'un comme dans l'autre pays, destinés, comme partout d'ailleurs, à créer et à mettre dans les cervelles le récit national, hein, à former finalement une sorte d'identité nationale qui était relativement neuve, la Grèce en tant qu'État, etc., n'existant que depuis 1830, et la Turquie telle qu'elle est maintenant que depuis 1923. Et donc, il fallait bien modeler quelque chose. Et c'est vrai que dans le récit traditionnel, au milieu de beaucoup de choses, l'ennemi le plus encombrant du côté grec, c'est indéniablement le Turc, et du côté des Turcs, le grec est un traître qui n'arrête pas de vous chercher des ennuis, mm-hmm. hein, et qui veut vous prendre ce qui est légitimement à vous, ce que mm-hmm. disent aussi les autres dans l'autre sens. Donc, mm-hmm. ça ne contribue pas à former, si je puis dire, des esprits propres à regarder l'autre d'un œil un peu amène. D'autant plus qu'on peut ajouter les expériences personnelles des uns et des autres qui, tant qu'on se souvient de 1900, enfin, ou de la période 1912-23, ne sont pas toujours de très, très excellents souvenirs. Alors, c'est vrai que depuis, disons, au début des années 80, un certain nombre d'historiens des deux côtés se sont rendus compte, ont vraiment pris conscience du fait que ces manuels contribuait finalement à créer une mauvaise atmosphère ou une atmosphère qui entraînait de mauvais rapports. Donc, ils ont commencé à réfléchir, mais c'est vrai que l'atmosphère politique n'allait pas tellement dans ce sens. Et c'est surtout à la fin des années 90 et dans la période, je dirais, 98-2004, qu'un gros effort a été fait des deux côtés. Et seulement, c'est un effort qui vient d'en haut, qui est conditionné par le choix des politiques. Donc, si la politique change, l'effort aussi. Et c'est un effort qui avance lentement parce qu'il avance dans un terrain miné depuis si longtemps qu'il peut pas aller très, très vite. Donc, c'est vrai que des deux côtés, on a supprimé, je dirais, ce qui était… des qualificatifs grossiers ou vexants ou vraiment excessifs. Par contre, délicatement, le fond est resté, c'est-à-dire c'est nous qui avons raison et c'est pas celui d'en face. En même temps, dans les deux cas, il y a moins d'histoire nationale et il y a un peu plus d'histoire européenne ou globale. Et du coup, comme on parle surtout des Turcs quand on est en Grèce ou des Grecs quand on est en Turquie, dans le cadre de l'histoire nationale, plus on donne de place à l'histoire européenne ou mondiale et moins on a l'occasion de parler de nos petites affaires. Donc maintenant, ces efforts sont arrêtés depuis une dizaine d'années parce que d'abord il y a une partie de l'opinion qui n'a pas évolué et qui supporte difficilement qu'on soit gentil avec guillemets avec l'autre, et en plus parce que la conjoncture politique en Turquie ne va pas vraiment dans cette direction.
Alors, une des thèses qu'on retient de votre ouvrage, des principales idées maîtresses, c'est que au cours du dernier siècle, vous montrez que malgré les discours guerriers, l'état d'alerte des deux côtés, les mobilisations qu'on a connues, aussi des cycles d'apaisement, de détente, voire, mais jamais d'entente cordiale. Juste comme si les deux voisins essayaient d'éviter le pire tout en restant l'arme au pied. Et c'est une constante qui traduit les relations gréco-turques depuis les années 1950 à aujourd'hui ?
Oui, je crois que oui, en effet, on va effectivement pas à l'entente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe aussi qui est de savoir si on considère les États ou les individus. C'est-à-dire que les individus, vous mettez un Grec et un Turc ensemble, ça va très bien, ils vont pas du tout se taper dessus, ils vont même très vite évoluer comme étant les meilleurs amis du monde. Ouais. Et s'apercevoir qu'ils ont des tas de choses en commun, de surcroît. Finalement, si vous éditez un livre en Grèce qui a un rapport quelconque avec la Turquie, l'Empire ottoman, etc., vous êtes quasiment sûr de faire une sorte de grand succès d'édition. Presque la même chose, enfin c'est plus difficile dans l'autre sens, dans la mesure où la liberté est plus limitée. Vous avez des Grecs qui se passionnent pour les feuilletons turcs, vous avez des Turcs qui se passionnent pour la musique grecque. Donc je dirais à l'échelle personnel, on peut aller facilement à l'entente cordiale. Il y a de plus en plus de touristes qui vont d'un pays à l'autre et de l'autre à l'un et qui se déclarent satisfaits. Par contre, c'est vrai que du côté des gouvernements, il n'y a pas d'entente cordiale depuis 1950. Il y a juste des moments où on décide que pour le meilleur intérêt des deux, il serait peut-être bon de s'entendre.
Mais alors, pardon.
Ce sont toujours deux des États les plus armés, finalement, de l'OCDE.
Déjà, vous avez parlé dans votre livre de plusieurs phases historiques. Vous distinguez très bien 1928 à 54, qui correspond à une phase justement de détente, puisqu'à cette époque, en Grèce et en Turquie, étaient au pouvoir des grandes personnalités historiques qui avaient connu l'Empire ottoman, que ce soit Venizelos en Grèce et Mustafa Kemal Atatürk, et qui étaient à l'évidence des dirigeants pragmatiques. Donc la césure, vous la mettez en 55, c'est-à-dire ce qui correspond au pogrom anti-grec d'Istanbul, où il faut retenir, où c'est pas une date forcément qu'il faut retenir. Bien comprendre qu'il y a une césure, un avant et un après 55.
Disons que les choses commencent à être un peu moins cordiales, si l'on peut dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, bon, le contexte est quand même extrêmement particulier. Et après la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'y a pas de grand chef au pouvoir, etc., enfin, il n'y a vraiment pas l'équivalent de Venizelos Atatürk, le poids d'abord de la reconstruction, le poids des États-Unis, le poids de l'OTAN dans lequel les deux pays entrent la même année, tout ça fait qu'il peut pas y avoir vraiment de désaccord non plus. Donc, on s'échange des visites. Et c'est vrai que le pogrom de 1955 marque une rupture très nette. Et puis, c'est aussi le début ou le moment où la question chypriote arrive vraiment à l'ordre du jour. Et ça va aggraver, si je puis dire, les tensions.
Vous citez à peu près tous les contentieux dans le livre, que ce soit les guerres des mémoires, enfin, bien entendu, les conditions dans lesquelles les deux États-nations se sont constituées, la question chypriote, la question des minorités turques ou musulmanes de Thrace, et minorités grecques de Turquie, et de leurs biens, l'énergie, la délimitation du plateau continental, la mer Égée. Alors, moi, je voulais savoir pourquoi le génocide des Grecs pontiques n'est jamais évoqué par Athènes. Alors que bon, je crois que si j'ai bien compris, c'est abordé dans les manuels d'histoire, contrairement aux Arméniens, aux Assyro-Chaldéens qui ont une vraie revendication, une demande de justice et de réparation. La question du sort des Grecs pontiques au tout début du Kémalisme, donc ces centaines de milliers de Grecs de Trabzonde qui avaient été exterminés par les nationalistes turcs, n'est quasiment pas dans l'agenda des relations bilatérales, n'est jamais, à mon sens, évoquée par les dirigeants grecs. Qu'en est-il?
Les Grecs pontiques, effectivement, n'étaient pas du tout à l'ordre du jour des préoccupations de Venizélos. Et en fait, politiquement parlant, on parlait guerre d'eux. C'est vrai que progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, tout d'un coup, il y a eu je dirais pas de résurrection parce qu'ils n'étaient pas morts, mais ils sont atteints un degré d'autoconscience et d'organisation telle qu'ils sont parvenus effectivement à faire reconnaître ou admettre par le Parlement grec, déclarer qu'une certaine journée, n'est-ce pas, du mois de mai, serait la journée du génocide pontique. Maintenant, Kyriakos Mitsotakis est très conscient. D'abord, c'est quelqu'un qui cherche à toujours avoir l'air du bon garçon, qui est conciliant et qui ne veut pas aggraver les choses.
On parle du Premier ministre grec, hein, l'actuel Premier ministre grec.
Il sait très bien que, vu par la Turquie et vu par Erdogan, le génocide pontique, alors c'est le chiffon rouge, c'est la chose dont il ne veut pas à aucun prix admettre la moindre parcelle. Et donc c'est vrai que parler hors de Grèce du génocide pontique, c'est immédiatement provoquer la Turquie. Or, si Erdogan adore les discours provocateurs, Mitsotakis, non.
Alors, effectivement, y a ce chiffon rouge. Et puis, nous parlons aujourd'hui, en ce moment, donc du regain de tension en mer Égée, la question de la démilitarisation des îles grecques, que Ankara ne reconnaît pas, en tout cas une souveraineté entière sur le plateau continental. Quel est le coût pour la Grèce aujourd'hui de cette course aux armements, compte tenu du PIB grec, qui est bien plus inférieur au PIB turc, et même le rapport de force démographique, je crois que la Grèce est 8 fois moins peuplée que la Turquie. Donc, comment on peut estimer le coût pour l'État grec de cette politique d'armement? La Grèce qui, dans le cadre donc de son rapprochement avec la France, a commandé plusieurs dizaines d'avions Rafale. La Grèce qui doit faire face justement à cette pression constante de la Turquie tout le long donc de sa frontière en mer Égée.
C'est indéniablement un coût énorme depuis 1950. La Grèce a toujours été pratiquement dans l'OCDE le pays qui consacre en pourcentage de son PIB le plus d'argent à l'armement. Au moment de la crise de 2008, elle avait tenté même de faire des économies en annulant un certain nombre de commandes, mais des commandes qui étaient faites à la France et à l'Allemagne, qui gentiment lui ont dit qu'on ne pouvait pas annuler les commandes. Donc tant pis si elle avait qu'à faire des économies sur autre chose. Mmh. Bon, et maintenant Erdogan a beaucoup rigolé au moment des commandes à la France en disant « Ah oui, mais avec quoi la Grèce va-t-elle payer ?» Bon, je ne sais pas avec quoi il payera lui aussi certaines choses, mais enfin… Et c'est vrai que c'est une pression permanente et que là… Avec un discours très conciliant, là, d'autre part, la riposte de Mitsotakis, c'est effectivement, puisque l'armement de l'armée grecque était un peu vieillissant à cause de la période de crise, allons-y et renouvelons le tout. En même temps, c'est vrai que la pression, la différence démographique entre les deux pays est tellement énorme. Je ne sais plus jusqu'à, et la proximité aussi. Enfin, je veux dire, c'est bien joli que les deux pays soient merveilleusement bien armés, mais vu la distance très faible qui les sépare, chacun des deux peut en très peu de temps anéantir complètement les grandes villes de l'autre. Donc, je ne vois pas du tout. Je ne sais jamais jusqu'où ils sont effectivement et vraiment capables d'aller. En même temps. En fait, et ça correspond à une espèce de crainte permanente et paradoxalement des deux côtés. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser que c'était sérieux du côté turc, parce que je comprenais très bien que les Grecs se sentent tout petits par rapport aux 85 millions de Turcs. Et j'ai eu un certain... Il m'a fallu pour arriver à bien réaliser qu'effectivement les gouvernements turcs successifs avaient tellement élevé leur population dans l'idée que les méchants grecs les encerclaient et qu'ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient aidés par toute la communauté internationale qui adorait les Grecs et qui détestait les Turcs, et ça explique aussi ces possibilités d'armement, parce que personne ne fait jamais confiance à l'autre.
Alors, il y a cette défiance réciproque, mais il y a aussi, à vous entendre, de la partie turque, ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Sèvres, c'est-à-dire la hantise d'un démembrement, parce que la Turquie se sent entourée d'ennemis hostiles, grecs, arméniens, bulgares, etc., russes, et internes. C'est bien un syndrome de Sèvres qui explique cette hantise côté turc, compte tenu du déséquilibre du rapport de force qui lui est favorable.
Oui, en même temps, j'avoue, tous les chercheurs qui sont spécialisés dans la Turquie retrouvent périodiquement cette trace du syndrome de Sèvres. En même temps, j'avoue que dans la configuration internationale actuelle, ça me paraît quand même un peu. Enfin, j'ai l'impression que oui, ça relève du syndrome d'une peut-être, j'irai pas jusqu'à dire psychopathie, mais enfin, c'est raisonnablement. Ça me paraît pas soutenable, mais c'est vrai que les gens sont élevés dans le souvenir, enfin depuis un siècle, dans le souvenir que les grandes puissances leur veulent beaucoup de mal, voulaient les découper et ne demandent pas mieux que de recommencer.
On comprend aussi que l'État grec moderne au XXe siècle, l'État et la République de Turquie, qui est une création relativement récente, se sont construits sur deux renoncements. Renoncement à l'Empire ottoman côté kémaliste turc et renoncement à ce qu'on appelle la grande idée, la méga idea, c'est-à-dire la grande Grèce à cheval des deux côtés de la mer Égée, entre Smyrne et Athènes. Quelle place occupe justement la mémoire de l'Asie mineure dans la pensée politique grecque? Est-ce juste de l'ordre de la littérature, du folklore, où il existe une forme d'irrédentisme de la part de certains courants politiques, notamment nationalistes, d'extrême droite, pour ne pas les nommer.
Il va vraiment falloir aller chercher des courants de très, très extrême droite. Je veux dire, je crois pas que personne raisonnablement imagine encore reprendre Constantinople. Donc, mais ça a très, très longtemps, enfin, je dirais le regret Ça a été cultivé non pas sous la forme d'un désir de reconquête militaire, mais sous la forme du regret et du souvenir du mal que vous a fait celui d'en face. C'est plutôt sous cette forme-là. En même temps, Kemal, lui, était totalement, je dirais, il voulait même pas entendre parler de l'Empire ottoman. Donc, on peut pas dire, c'est qu'on en reparle, ça fait partie des nouveautés d'Erdogan depuis une dizaine d'années, que tout d'un coup, se mettre à remettre à l'ordre du jour et de façon honorable l'Empire ottoman. Alors que pour Kemal, c'était plutôt un repoussoir, fallait faire autre chose que l'Empire ottoman. Erdogan, lui, ces temps-ci, a l'air d'avoir une espèce de nostalgie permanente de l'Empire ottoman qui, justement, inquiète ses voisins. De ce côté-là, il préférait Kemal.
Alors, parlons un petit peu du rôle des sociétés civiles. C'est important parce que, comme vous le dites bien dans votre livre, il y a plusieurs acteurs dans cette relation bilatérale, que ce soit les politiques, les dirigeants, les acteurs économiques et le rôle des artistes, des cinéastes, des producteurs qui réalisent des films, qui écrivent des romans, qui abordent justement l'autre, c'est-à-dire le Turc dans la mémoire grecque et en la mémoire par exemple des Turcs de l'île de Crète. Tout cela contribue-t-il à une forme de diplomatie parallèle? Dans quelle mesure justement la société civile turque et grecque ont permis de hisser des ponts? Aussi, je pense au plan universitaire, puisque il y a beaucoup de chaires de grec en Turquie, de chaires de turcologie en Grèce.
Les sociétés civiles ont, bon, les premiers acteurs, mais qui étaient franchement des pionniers exceptionnels, c'était dans les années 80. Elles sont vraiment entrées en jeu depuis le milieu des années 90. Et elles sont très actives. En même temps, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, leur activité côté turc est réduite pour simplement parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de dire en Turquie, parce qu'un universitaire turc maintenant qui n'osera même pas prononcer le mot génocide, même pas concernant les Arméniens, parce que il perdra sa place, et encore, ça sera moindre mal s'il n'a pas en plus une condamnation juridique. Donc du coup, ça limite beaucoup ce que la société civile turque pour l'instant peut faire. En même temps, c'est vrai qu'elle se manifeste. Il y a au plus de 80 villes grecques qui sont jumelées avec et même des petites villes, hein, qui sont jumelées avec des équivalents turcs. Il y a toute une société. En fait, les souvenirs à la troisième génération, donc qui commence à être un peu vieux, ou quatrième, de l'avant Lausanne, qui aurait pu finalement faire naître de mauvais souvenirs, sont devenus de bons souvenirs nostalgiques. Donc maintenant, des deux côtés, on essaye de retrouver le village du grand-père, de reprendre contact avec d'autres gens dont les grands-parents ont été échangés contre vous, etc. Il y a beaucoup de contacts avec les universitaires, mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, ça devient difficile parce que les universitaires turcs sont vraiment très poursuivis. Hein. C'est un des pays au monde où, d'après même l'ONU, les universitaires ont le moins de liberté. Donc, on veut bien que vous collectionniez les souvenirs du temps jadis, mais en faisant bien attention avec tout ce qu'il faut pas dire, etc. Donc, vous pouvez dire que c'était très bien sous l'Empire ottoman, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas maintenant prévoir un certain nombre de choses et revendiquer. Mais c'est vrai que il y a du répondant du côté de la société civile, alors indéniablement du côté grec et du côté turc. Même si c'est plus silencieux, il y a beaucoup de répondants, ne serait-ce que dans les partis d'opposition. Et comme personne ne sait qui va gagner les futures élections, on ne sait jamais.
Que représente l'évolution du commerce bilatéral gréco-turc, enfin en part du PIB pour les pays respectifs, sachant que malgré toutes les tensions, les cycles d'escalade, le commerce bilatéral, et vous me corrigerez, enregistre une croissance constante.
Oui, bah, il a été, comme tous les autres, arrêté par le Covid, mais sinon, c'est vrai que le commerce bilatéral, depuis une quinzaine d'années, augmentait régulièrement. Il a connu une grande phase merveilleuse entre 2000-2010 à peu près. C'est plus… enfin, il faut trouver des produits à échanger, je dirais, entre les uns et les autres. Le fait que les produits grecs soient plus chers que les produits turcs fait que les échanges peuvent marcher mieux dans un sens que dans l'autre. C'est le contraire du tourisme ou inversement. Il y a pas mal de candidatures au tourisme en Grèce, mais qui sont très, très, très handicapées par la différence entre le niveau de vie des deux pays. Et donc, ce commerce, mais le commerce fonctionne, je dirais, à la limite, sans s'occuper de la politique. Les hommes d'affaires se réunissent entre eux, ils ont des forums d'affaires, ils font des investissements des deux côtés, etc. Et du moment que on va pas leur interdire quelque chose, ça on leur interdit plus depuis déjà longtemps, ils fonctionnent dans un cadre qui est le leur, en négligeant totalement ce qu'éventuellement les hommes politiques pourraient leur dire.
Alors, il y a un pays dont on n'a pas parlé dans la relation gréco-turque, mais c'est intéressant de le rappeler en tout cas dans votre livre, c'est la Bulgarie. La Bulgarie qui, à plusieurs moments de son histoire, à l'époque communiste notamment, représentait une forme de menace à la fois pour la Turquie, mais aussi pour la Grèce. Dans quelle mesure la Bulgarie a permis, en tout cas la menace bulgare en Thrace, orientale et occidentale, a permis de réunifier, de converger en tout cas les vues entre Ankara et Athènes.
Ben, ça avait surtout aidé à l'entente Venizelos-Kemal, puisqu'ils étaient d'accord contre le même ennemi supposé qui était la Bulgarie. Maintenant, c'est vrai que la situation a changé, puisque la Bulgarie n'est plus, et c'est très net, n'est plus communiste, qu'en plus elle est rentrée dans l'Union européenne, donc elle est plus considérée comme un ennemi potentiel. Il y avait eu une crise entre la Bulgarie et la Turquie concernant les musulmans turcophones de Bulgarie, mais cette crise-là, ça y est, elle est passée. C'est devenu plutôt un champ d'affaires pour les Grecs, la Bulgarie, puisque ça permet finalement d'investir en payant des gens pas très cher, juste à sa frontière, à quelques kilomètres. Et la Turquie peut plus se permettre d'avoir de mauvais rapports avec quelqu'un qui fait partie de l'Union européenne. Donc, finalement, la Bulgarie n'est plus ce qu'elle était, si je puis dire. En tout cas, c'est plus l'ennemi.
Une autre question aussi par rapport à la question chypriote. Alors, effectivement, c'est le principal point pierre d'achoppement, en tout cas, dans la relation gréco-turque et gréco-européenne, puisque la question chypriote s'est invitée, est devenue une question aussi européenne et un enjeu majeur, en tout cas dans le processus d'adhésion gelé entre la Turquie et l'Union européenne. Je voulais savoir comment vous évaluez le rapport entre Athènes et Nicosie. Est-ce que ça a toujours été un rapport d'alignement où on a connu des frictions, en tout cas entre l'État grec et l'État chypriote, notamment à l'époque de la présidence de Chypre par l'archevêque Makarios et la dictature des colonels. Est-ce que les positions entre Chypre et Athènes sont totalement alignées ou est-ce qu'il existe des divergences sur justement ces sujets de sécurité, de politique étrangère et aussi intérieure?
Disons que les positions s'éloignent dans la mesure où les deux deviennent plus indépendants l'un de l'autre. Athènes ne peut plus donner des instructions aux Chypriotes et inversement. Et Athènes essaye de prendre un peu de distance pour peut-être être moins impliquée dans l'affaire. En même temps, sur le plan diplomatique, ils sont totalement impliqués puisqu'ils ont décidé depuis déjà plus de 20 ans un espace de défense commune et qui participent à des mesures, des campagnes d'entraînement militaire, etc., communes, et maintenant communes avec Israël. ce qui est un des efforts de Chypre, qui se sent particulièrement en danger et isolé, que de se dire que, ma foi, hein, si on peut arriver à ajouter un troisième dans l'affaire et à faire un axe Israël-Chypre-Athènes, ça n'ira que mieux. Il y a quand même un paradoxe permanent sur Chypre, pour une fois, hein, c'est quand même que depuis 1975, l'ONU ne cesse de dire aux forces militaires turques qu'elles n'ont plus rien à faire au nord de Chypre et qu'elles n'ont plus aucune raison d'y rester. Hein, il y a deux résolutions par an sur le sujet. Comme ça fait 48 ans maintenant, on a même dépassé la centaine de résolutions et rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on a pris dans l'Union européenne un État dont un tiers du territoire est occupé par l'armée d'un autre État qui, de surcroît, est extérieur à l'Union européenne. Donc, je veux dire, pour l'Ukraine, c'était absolument insupportable, mais pour le nord de Chypre, finalement, ça peut durer depuis 48 ans sans que personne ne bouge. Vous et moi avons le droit d'aller acheter une maison à Chypre Nord, mais un Chypriote du Sud n'a pas le droit. Et pourtant, tout ça est dans l'Union européenne.
Pensez-vous qu'on va vers l'annexion de Chypre Nord par la Turquie comme...
Alors, moi, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas un côté Madame Soleil, mais par contre, je peux vous dire que les Chypriotes, à l'heure actuelle, sont extrêmement inquiets et se disent que si Erdogan est réélu, rien ne l'empêchera de jouer les Poutines. Et qu'ils savent très bien que si, pour l'instant, on est en train de s'engager aux côtés de l'Ukraine contre Poutine, comme en plus on se fait du souci pour Taïwan, c'est pas pour un petit bout de Chypre que l'Union internationale va s'émouvoir. Elle ne s'émeut pas depuis 48 ans, ça peut continuer. Donc réellement, je vous assure qu'il y a un certain nombre de Chypriotes maintenant, mais personne s'en occupe, mais qui sont vraiment très très inquiets de la suite des événements et de ce qui est en train de se passer, se disant qu'on les a toujours trouvés trop petits pour être intéressants et que là, alors ils sont encore plus petits, si je puis dire.
Comment estimez-vous, comment jugez-vous le rôle de l'Union européenne et de l'OTAN, justement, dans l'évolution du dossier chypriote, du traitement du dossier chypriote, d'une part, et de la question de la mer Égée et justement des survols illégaux de l'espace aérien grec par l'armée de l'air turque et les violations des eaux territoriales grecques par la marine, notamment turque, et les bateaux d'exploration géologique turque.
Depuis 1950, l'OTAN est intervenu plusieurs fois à des moments de crise où on était à la limite de passer au feu. Hein. Donc, en même temps, l'OTAN comme l'Union européenne sont accusés dans les deux pays, et ma foi, de se contenter de belles paroles et de pas dépasser ce stade. C'est-à-dire, c'est très vilain de faire ceci. Et après, on dit aux gens, entendez-vous. La plupart du temps, c'est ce que tous les responsables européens disent depuis 2 ans aux responsables de Grecs et Turcs. Entendez-vous. Ce à quoi c'est à peu près comme si quand on dit à Zelensky et Poutine, entendez-vous. On a à peu près autant de chances de succès, d'autant plus que maintenant, Erdogan a décidé qu'il voulait même plus discuter avec les Grecs, donc comme ça ils auraient du mal à s'entendre. C'est finalement, comme on ne veut pas se brouiller avec la Turquie étant donné sa position géopolitique, et ben d'un côté on lui dit que c'est pas bien et d'un autre côté on laisse faire.
Donc les Grecs se sentent quelque part et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une perception des deux, de part et d'autre de la mer Égée. D'une part, les Grecs se sentent oubliés, délaissés par leurs alliés occidentaux, européens et atlantistes. Et de l'autre part, les Turcs considèrent que les Grecs sont leurs protégés, puisque la Grèce fait partie de ce, entre guillemets, club chrétien qu'est l'Union européenne. Donc, c'est toujours une question de représentation et de récits antagonistes qui traduisent cette relation bilatérale compliquée.
Oui, c'est et effectivement, il est vrai que les positions ni de l'OTAN ni de l'Europe ne sont pas toujours très claires. Et finalement, dans les sondages, les deux pays, d'ailleurs, quand on leur demande finalement à votre avis que ferait l'OTAN au cas où, etc., et en cas, disent ils choisiront ce qui les arrange eux, leurs propres intérêts, et non pas de défendre les intérêts de l'un ou de l'autre. Ou donc c'est vrai que dans les deux cas, c'est des gens qui ont l'impression que finalement on les considère comme comme des outils intéressants, mais rien d'autre.
Bien, j'ai très bien
des raisons de ce côté-là.
Eh bien, Joël Dagrel, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie pour vos éclairages lucides. Et je rappelle à nos auditeurs la parution de votre dernier livre, « Un siècle de relations gréco-turques » publié aux éditions L'Harmattan. Je vous remercie de votre attention.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.